Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Voici un homme errant, obligé de fuir les persécutions. Certes, Giordano Bruno a parcouru l'Italie. Né dans le royaume de Naples, dominicain déclaré traître à la religion et hérétique, il enseigna à Padoue, à Gênes ou encore à Turin, mais aussi en France et en Angleterre. Homme de tous les savoirs, Bruno portait une pensée qui dissolvait la vision du monde de son temps, mais aussi, dans une large mesure, d'une autre. Car, traversé par l'infini, il déclarait qu'il existe une infinité de terres, une infinité de soleils et un éther infini. Mort sur le bûcher en 1600, à l'âge de 52 ans, Giordano Bruno jeta au visage de ses accusateurs, au moment de la lecture de sa condamnation, « Vous éprouvez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à la recevoir. » Écrivain génial et penseur magnifique, il est un des trop rares qui affirme face à la mort, ne craignant nul obstacle ni de cristal ni de verre, je fends les cieux et m'érige à l'infini. Dans cette passionnante émission, Gilles Lapouge recevait en 1987 deux des plus fins connaisseurs et traducteurs de l'œuvre de Giordano Bruno, Yversant et Bertrand Lavergeois.
Giordano Bruno qui périt sur un bûcher de l'Inquisition en 1600. Je ne sais pas comment le présenter très rapidement. C'était un mathématicien, c'était un théologien, c'était un philosophe, c'était un visionnaire, c'était un poète, c'était toutes sortes de choses. Et lui-même ne savait pas très bien d'ailleurs, puisqu'il s'appelait, il se définissait comme un académicien sans académie. Pour parler de Giordano Bruno, nous avons ici avec nous à Agora deux invités, et non pas un, Yves Hersant d'un côté et Bertrand Lavergeois de l'autre. Pourquoi deux invités? D'abord parce que Giordano Bruno est un personnage vaste, compliqué, donc nous ne serons pas trop de trois pour lui faire son affaire, mais également parce que deux livres apparaissent presque simultanément de Giordano Bruno, de traduction. Un qui vient de paraître chez Berg International, qui s'appelle « L'infini, l'univers et les mondes ». Livre qui a été traduit de l'italien, présenté aussi et puis annoté par Bertrand Lavergeois. Et l'autre qui s'appelle « Le banquet des cendres », celui-là paraît dans quelques semaines seulement, dans une traduction de Yversant, avec une présentation hein, aussi de Yversant. C'est chez un éditeur que je ne connaissais pas, mais j'ai reçu son catalogue, je suis assez admiratif. Ce sont les éditions de L'Éclat, qui se trouvent à Montpellier, et vraiment, ce sont des gens qui ne cherchent pas la facilité. Je vois des écrits sur le livre de Mallarmé, je vois Abraham, Abou Lafia, l'épître des sept voix, etc., Bruno donc, un livre sur Nietzsche, etc., etc. Donc nous allons parler surtout de l'infini, l'univers et les mondes, c'est-à-dire celui qui paraît en ce moment chez Berg International, mais nous parlerons aussi de l'autre, et du reste nous reviendrons sans doute sur l'autre d'ici 2-3 mois quand il paraîtra, Le banquet des cendres. Pourquoi cela n'est pas choquant? D'abord nous avons les deux traducteurs et les deux présentateurs, et ensuite ces deux livres ne sont pas équivalents bien entendu, mais on peut dire tout de même qu'ils appartiennent un petit peu à la même cuvée dans l'œuvre de Giordano Bruno. Alors, c'est un homme qui est un petit peu à la mode aujourd'hui, mais enfin, c'est une mode obscure, c'est une mode dans le brouillard, parce que je crois que les gens ne savent à peu près rien de Bruno, sauf qu'il périt tristement sur les bûchers de l'Inquisition. Alors peut-être Bertrand Levergeois, je peux vous demander d'esquisser un petit peu son itinéraire.
Oui, je vais essayer d'esquisser son itinéraire parce qu'il est très très vaste. C'est un personnage, vous le cherchez dans un endroit, il est déjà dans un autre endroit. Bon, donnons quelques jalons historiques. Déjà, il est né en 1548 et il mourra en 1600.
Donc 52 ans.
Voilà, 52 ans, très jeune. Donc c'est un personnage très particulier. Au départ, il est dominicain et puis il va se faire remarquer pour un goût sans limite pour la connaissance, pour la recherche singulière, la recherche qui vient de lui-même. Il va faire des lectures propres. Et ces lectures ont l'amené à être considéré très rapidement comme à être soupçonné, en tout cas d'être un hérétique. Il va être obligé de fuir son ordre à Naples, près du village où il est né, Nola, ce qui lui vaudra le surnom de Nolin. Puis il va traverser un tout petit peu l'Italie, il va être encore persécuté à Rome, puis on va le retrouver à peu près dans toutes les villes qui importent du point de vue de l'intellectualité à cette époque, c'est-à-dire en Suisse, à Paris, puis Londres, qui jouera un rôle extrêmement important dans sa vie, puisque c'est à Londres qu'il fera paraître les dialogues métaphysiques.
Les trois dialogues, donc.
Les plus importants.
Et la scène des cendres, voilà, la scène, le banquet.
Le banquet. On pourrait traduire la scène des cendres, on garderait l'allitération, mais on changerait la connotation.
Voilà, moi j'ai choisi la scène des cendres. Mais... Bref.
Celui qui paraît alors chez Berg.
Voilà, le troisième, c'est l'infini, l'univers et les mondes.
Et la cause, le principe est là. Oui, donc ces trois textes sont de Londres, et c'est déjà une réponse à ses détracteurs.
C'est déjà une réponse à ses détracteurs. À chaque fois où... où Bruno a essayé de déclarer un tout petit peu son point de vue sur un problème, il a été repoussé. Toujours, il a été repoussé. Donc, en fait, il choisit l'occasion de ces trois dialogues métaphysiques pour essayer de développer sa pensée sur ce qui peut-être lui tient le plus à cœur, à savoir sa conception de l'univers.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'avant même Londres, il avait tout de même réussi à séduire, d'une certaine manière, Henri III. Hein, et que la France était un des pays qui l'accueillait un peu mieux que les autres.
Oui,
et puis après, ça change.
Oui, c'est le pays qui, d'ailleurs, l'accueillera le mieux, parce que bien qu'il ait... plus tard, même s'il va traduire, il va essayer de mettre en forme sa pensée à Londres à travers ces trois dialogues, il n'aura pas un accueil extraordinaire à Londres non plus. Effectivement, c'est à Paris où il est le protégé d'Henri III, qui est très très intéressé par les premiers textes de Bruno, qui sont des textes lulliens. Et bon, il y a une espèce de mode à l'époque, donc il est le protégé du roi. On ne sait pas s'il faut voir là véritablement un intérêt d'Henri III pour la pensée véritable de Bruno. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Bruno, contrairement à l'image qui a été propagée ultérieurement, est certainement quelqu'un qui était proche de la position religieuse d'Henri III.
Médiane.
C'est-à-dire une position, oui, médiane, une position moyenne qui refusait les extrêmes.
Oui, mais ce qui est intéressant, alors nous allons voir la fin de sa vie maintenant. Dans la fin de sa vie, ce qui est intéressant, c'est qu'il a des amis, et ce sont ses amis finalement qui vont faire son malheur, par deux fois. Quand il est retourné à Paris, après Londres, il connaît un certain Italien qui s'appelle Mordante, je crois.
C'est ça, oui.
Et ce Mordante, ils font ensemble un livre... Oui. Sur une invention de Mordante en mathématiques.
C'est
et Mordante est furieux parce que, je ne sais pas, enfin, ça ne lui a pas plu. Et Mordante lui fait des ennuis. Oui. Et puis ça va se reproduire à Venise, alors tragiquement.
Oui, alors il y a deux choses. Il faut voir que Bruno est un dévastateur. Je veux dire, à partir du moment où il intervient dans un domaine de pensée, il fonce. Pour Mordante, on peut supposer que, en fait, Bruno a essayé de subtiliser un tout petit peu la découverte.
Ça n'avait pas
de...
plu, oui.
Oui, voilà. Enfin, Bruno se faisait un peu. Je veux dire, il prenait un peu tout à droite et à gauche.
Le dernier épisode est pire. Hein.
Ah ben, c'est-à-dire que le dernier épisode, oui, Mocenigo l'a fait venir à Venise pour en faire une espèce de comment dire d'intellectuel de salon pour qu'il lui donne des leçons parce que déjà Bruno, il faut le savoir. avait une réputation européenne importante déjà, bon, même si elle était mauvaise, elle était importante. Et Mocenigo qui ne va pas apprécier le comportement de Bruno, qui, semble-t-il, était destiné à le quitter, va le dénoncer à l'Inquisition. Comme Bruno était dans une position religieuse déjà assez difficile, étant donné qu'il avait eu des problèmes avec son ordre très, très jeune, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme toutes ces idées sont des idées contestataires, en tout cas qui vont le plus souvent à l'encontre des conceptions cosmologiques de l'Église, il est évident que l'Inquisition, à ce moment-là, si vous pouvez me permettre cette expression, ne va pas le rater.
Elle ne l'a pas raté, mais on l'a transporté à Rome quand même, parce que je pense qu'à Venise, on ne devait pas brûler hein, à l'époque.
C'est-à-dire qu'à Venise, il était très protégé, ouais. On a fait traîner son procès, et Bruno a eu une attitude assez peu subtile, d'une certaine manière. Il a préféré reconnaître certaines choses pendant son premier procès à Venise. Et en fait, ces choses qui avaient été reconnues par lui, eh bien, l'Inquisition de Rome s'est empressée de les prendre en compte pour le faire rapatrier sur Rome et à ce moment-là de le juger.
Il versant sur cette existence chaotique et assez magnifique en même temps.
Je crois que pour ma part, j'ajouterais deux choses. L'une en amont, l'autre en aval de sa mort. En amont, je crois qu'il importerait de rappeler que dans cette production multiforme, très diversifiée, il y a eu aussi des études sur l'art de mémoire. Et c'est peut-être un des aspects les moins mal connus de Bruno en France, grâce en particulier à une traduction du livre de Francis Yates sur les arts de mémoire.
Il y a aussi un livre de Culiano qui
était et de Culiano, en effet. Et une comédie qui a été traduite elle aussi, mais d'une manière qu'on pourrait discuter. Et en aval, je reprendrai volontiers l'expression que vous avez eue, sur les amis mortels de Bruno. Je crois que les amis posthumes de Giordano Bruno lui ont fait un tort considérable et que autour de ce personnage, qui d'abord a été statufié, comme le savent tous les touristes de Rome et qui sont allés place Campo dei Fiori et qui, si vous me permettez une anecdote personnelle, quand j'avais 5 ans, j'ai été terrifié par cette statue encapuchonnée au visage noir qui domine les marchands de 4 saisons en place Campo dei Fiori.
Votre intérêt pour Bruno vient de ce souvenir d'enfance. C'est votre Madeleine.
Un psychanalyste vous répondrait mieux que moi. Et d'autre part, après l'avoir statufié au sens propre, on l'a statufié au sens figuré en faisant de lui une sorte de résistant, ce qu'il est d'ailleurs à certains égards, mais de résistant à tout craint, de contestataire éternel, qui est presque de figure christique. Qui se serait sacrifié, qui aurait fait le sacrifice de sa vie à la science. C'est ce que vous appeliez tout à l'heure la vision positiviste de Giordano oui. Bruno. Et je crois qu'il est temps d'en finir avec cette position mythologisante ou mythifiante de Giordano Bruno. Et le premier devoir d'un traducteur, ou de deux traducteurs, ce qui est mieux encore, c'est, je crois, de contribuer avec la modestie inhérente à la fonction à une relecture, ou une lecture, en l'occurrence, plus probe, plus terre-à-terre, plus textuelle de ces deux textes.
Je vais compléter peut-être cette petite biographie par son autodescription, c'est-à-dire la description qu'il a donnée de lui-même, qui est assez bizarre d'ailleurs. Si vous connaissiez l'auteur, c'est donc Bruno qui parle, si vous connaissiez l'auteur, vous diriez de lui qu'il a une physionomie attristée. Il semble, dans la contemplation des peines de l'enfer, il ne rit que pour faire comme les autres. La plupart du temps, vous le verrez fâché, rétif et bizarre. Il ne se satisfait de rien, reclus comme un vieillard de 80 ans, fantasque comme un chien qui a reçu 1000 bastonnades, repu d'oignons. C'est tout à fait extraordinaire.
Je vous signale une chose assez amusante à propos de la statue de la Piazza Navona, c'est qu'elle est en train d'être...
Campo dei Fiori.
Oui, au Campo dei Fiori, c'est juste à côté, excusez-moi. Oui, elle est en train d'être faite, hein, ce qui prouve l'intérêt pour Bruno, même pour les statues.
Bien, alors là, pour l'instant, c'était relativement facile, notre débat. Maintenant, nous allons entrer quand même dans le vif du sujet, et c'est beaucoup plus difficile, puisqu'on va essayer, mais avec beaucoup, en effet, d'humilité, et en renvoyant à ce texte, L'infini, l'univers et les mondes, qui paraît chez Berg International, et puis à l'autre texte, Le banquet des cendres, qui va paraître bientôt à l'éclat. Donc, essayez un petit peu de dire le contenu, si on peut dire, de l'œuvre. Peut-être vous, puisque vous l'avez préfacé.
Oui, alors très modestement, parce que mon travail a surtout été un travail de traducteur. Je pense que l'essentiel de l'infini, l'univers et les mondes, comme son titre l'indique, est une réflexion de Brun sur la conception donc de l'univers. La conception de l'univers qui est d'actualité à l'époque, c'est celle de l'Église et c'est celle de Ptolémée, revue et corrigée un tout petit peu par Aristote, enfin bref. C'est assez complexe, hein. Il faudrait rentrer dans le texte à chaque fois.
Enfin, disons en gros, c'est un monde clos. Hein.
Bon, alors la conception, la conception donc de Ptolémée, c'est un monde clos où la Terre est au centre de l'univers et tout tourne autour de nous, en fait. Nous sommes le.
Mais en revanche, il savait que la Terre était ronde, Ptolémée.
Oui, alors effectivement, il y a une conception qui vient qui est une dérive de Pythagore, qui considère à partir d'une position mathématique selon laquelle le cercle est la perfection. Donc en fait, c'est une espèce de dérive logique. Hein. C'est pas du tout, bien entendu, expérimental. Il y a aucune raison de penser ça, si ce n'est en fait une espèce d'inspiration, d'intuition mathématique. Voilà, ça c'est ce qui est à jour véritablement à l'époque. Il y a
en ajoutant, excusez-moi, peut-être oui. Que la Terre pour Ptolémée, dans son Almageste, est immobile aussi.
Est immobile, oui. Oui. Alors, il y a ce point, il y a aussi un autre point qui est assez important, c'est la venue dans l'histoire de la pensée de Copernic, qui renverse, comme on le sait, donc, la fameuse révolution copernicienne, qui renverse un tout petit peu le jeu et qui situe les planètes autour d'un soleil, donc qui relativise en fait notre point de vue. Je dis relativise puisque la position de l'Église et cette vision immobile et centrale du monde et de nous-mêmes permettait donc d'avoir de penser la morale d'une certaine manière, d'avoir un haut, un bas, un ciel, un enfer.
Un bien, un mal.
Voilà, et un bien, un mal. Donc Bruno va intervenir, comme beaucoup de penseurs du Moyen-Âge, va intervenir comme un simple commentateur, en réalité, d'Aristote. Hein, il est tout à fait dans la lignée d'une tradition médiévale, mais il va faire exploser complètement la conception qui est d'actualité à cette époque.
Tesla, Yversin, vous avez quelque chose à ajouter parce qu'il y a votre banquet des cendres, il y a votre banquet des cendres aussi.
Le banquet des cendres dans la trilogie dont nous parlions est chronologiquement premier. En ce sens, je regrette d'arriver avec 2 mois de retard.
Et l'infini. Je suis désolé moi aussi d'arriver avant vous.
L'infini, l'univers et les mondes arrive lui troisième et développe, amplifie, accélère la conception dont le livre que je suis en train d'achever de traduire donne le là et donne les premiers éléments.
Mais c'est déjà les mêmes thèmes et les mêmes perspectives. Hein,
c'est la même idée que l'on pourrait peut-être, c'est une des manières de présenter les choses, que l'on pourrait résumer avec la formule suivante. Bruno dépasse, est le premier sans doute à dépasser, l'opposition médiévale entre l'infini et la perfection. L'idée médiévale de la perfection incluait la finitude. Comment penser ensemble la perfection divine et l'infinité de l'univers. Voilà l'un des problèmes de Bruno, dès lors qu'on aborde ce que vous avez appelé le contenu de l'œuvre. Mais j'espère que nous aurons quelques minutes tout à l'heure pour parler aussi d'autres aspects discursifs, tactiques, d'une mise en œuvre formelle.
Alors, encore un mot sur le contenu, parce que vous avez l'un et l'autre expliqué qu'il se trouvait en face d'une certaine conception qui était très fixe depuis Ptolémée, soutenue par Aristote et par l'Église aussi du Moyen-Âge. Mais qu'est-ce qu'il essaie, qu'est-ce qu'il propose à la place? Il propose donc cette infinitude de l'univers.
Alors, pour essayer d'être simple, ce qui est malheureusement très difficile avec la pensée de Bruno, je vais essayer d'être simple. Je crois que c'est difficile, malheureusement. Bruno donc a affaire à un univers clos. Il pense à travers Copernic donc à un renversement de la situation, à une relativisation d'une part donc de la vision cosmologique et aussi de la vision morale, parce que ça a des conséquences morales. Mais il ne faut pas oublier que Bruno est un dominicain. Je veux dire, c'est un croyant. Hein. On a très souvent véhiculé l'idée selon laquelle en fait Bruno était un contestataire et en fait proche d'un athée. Je crois personnellement que c'est faux. Bruno essayait de faire deux choses. C'est d'une part de légitimer le divin et d'autre part de légitimer l'existence d'une réalité infinie, peuplé de mondes innombrables, d'où le titre « L'infini qui se compose de l'univers et des mondes ».
Donc le problème, c'est de passer du un au multiple. Finalement.
Voilà, le problème, c'est de passer, d'essayer de concevoir à la fois comment il y a d'un côté Dieu, l'un, et d'autre côté le monde, le multiple. Voilà, c'est d'essayer de voir le rapport entre l'un et le multiple. Donc il est obligé, traitant de l'infini, de concevoir deux infinis. Au risque d'étonner, il y aura d'un côté l'infini infini, Dieu, l'un, et de l'autre côté l'infini fini, à savoir le monde, ou les mondes, puisqu'il y en a plusieurs, et donc le multiple. Voilà la vision de Bruno. Alors comment, là,
des instruments qui sont assez compliqués, il y a la coïncidence des opposés, qu'il a emprunté au Cousin, d'ailleurs.
Voilà, c'est exact.
C'est assez très, très calé. Et là, il faut vraiment lire le livre, je crois, parce que ici nous pourrions un petit peu nous embourber.
Disons simplement que mathématiquement, vous pouvez concevoir facilement qu'on puisse passer du chiffre 1 à, et imaginer qu'on puisse, à travers une série, arriver à l'infini. Au chiffre, au dernier nombre, si possible. Il part de cette thèse qui est mathématique, qui est prouvée à l'époque, et il essaie de l'appliquer à la réalité, ce qui en réalité... Oui.
Et aussi le cercle qui devient immense, qui rejoint d'une certaine manière la droite.
Hein. Voilà, c'est ça.
Bon, d'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de la Terre ronde, parce que la Terre, on la voit plate et elle est ronde. Donc, c'est aussi la même aporie, d'une certaine manière.
D'une certaine manière, oui.
Yves Versin, tout à l'heure, vous disiez, le contenu, nous l'avons seulement esquissé, enfin posé, au fond, le problème. Mais c'est dans le livre qu'on peut, pas le résoudre, mais en tout cas savoir comment, lui, le résolver. Yves Versin, vous pensiez aussi à un autre aspect de cette œuvre, aussi bien de celle-là, d'ailleurs, que du Banquet des cendres.
Je pensais surtout, je l'avoue, au Banquet des cendres, mais...
Égoïste.
Les mêmes aspects, je pense, sont repérables dans les deux œuvres, ou dans les trois œuvres. Et il ne faut pas oublier qu'il s'agit là d'une trilogie. Et pour ma part, j'ai été sensible à la position qui était celle de Bruno, à savoir celle d'un homme qui s'en prend agressivement et comiquement, du reste aussi, à toutes les traditions préexistantes, au néoplatonisme, à l'aristotélisme. Aristote fait l'objet d'une critique d'autant plus paradoxale qu'il s'agit de démonter Aristote avec les concepts aristotéliciens. Il s'en prend de même à la tradition hermétique et il s'agit pour lui de se poser en autorité. Et cette notion d'autorité qui est, je crois, particulière importance dans tout le Moyen-Âge et dans toute l'époque aussi dont nous parlons, réfère à tout un système de lecture et d'institutions aussi, d'institutions savantes. Comment prendre la parole, comment la garder, comment se faire entendre. Dans la tradition médiévale, très grossièrement résumée, nous savons qu'il y avait au moins 4 niveaux auxquels on pouvait se situer pour parler ou écrire, surtout. Il y avait le scriptor, qui simplement recopiait des textes, le compilator, qui ajoutait quelques gloses qui n'étaient pas de lui, le commentator, qui ajoutait du sien, et puis l'auctor, l'auteur, qui, lui, faisait du sien. Or, il me semble que c'est cette conception que, d'une certaine manière, Bruno doit jeter à bas pour développer des idées qui sont fondamentalement, radicalement neuves. Et ce qui, en particulier dans cette perspective, m'a frappé, c'est la mise en œuvre de tout un ensemble de tactiques, de discours. D'abord, le recours au dialogue, un dialogue à 4, en l'occurrence.
Avec des gens très définis. Hein. Il y en a un qui représente plus ou moins Bruno. Oui. Il s'appelle Philothéo, je crois. Oui. C'est l'ami de Dieu, d'ailleurs.
C'est l'ami de Dieu. Oui.
Et puis alors un autre qui est l'aristotélicien de base, enfin, si on peut dire.
Oui, la partie adverse.
Oui, etc. Et puis des nuances.
Et puis un bouffon pédant.
Oui.
Et puis je parle du Banquet des cendres, là.
Là aussi. Hein.
Oui, on trouve plus ou moins les mêmes types. Ouais. Il y a une dramatisation, au sens, une théâtralisation même. Il ne faut pas perdre de vue que Bruno a aussi écrit du théâtre. Et je pense, pour résumer très sèchement, que cette procédure est d'une ruse extraordinaire, puisqu'il s'agit, pour un auteur qui s'appelle Giordano Bruno, le Bruno historique, de fabriquer textuellement un personnage, Philothéo, qui lui-même donne de l'autorité, dramatiquement, à quelqu'un qui s'appelle le Nolan, et qui est indirectement Bruno lui-même. Nous avons Bruno divisé, si je puis dire, en 3 instances. Le Bruno historique, qui est l'auteur au sens moderne du livre, des 3 livres. Le Nolan, dont la figure immense apparaît progressivement au cours du dialogue. Et Philothéo, qui sert de médiateur et qui crée l'autorité. Donc nous avons un auteur qui crée un personnage fictif d'auteur qui, par contre-coup et ricochet, le constituera, lui, Bruno, en auteur.
C'est un homme subtil, hein?
C'était, je crois, un homme subtil qui met, par cela même, fort à mal les compétences éventuelles des traducteurs.
Bien, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le livre, moi je n'ai lu que l'infini, l'univers et les mondes pour l'instant, j'attends l'autre. Le livre est, d'une certaine manière, il est très très élevé, il est très dense, on respire, mais enfin c'est tout de même un éther assez raréfié. Hein. Et puis alors brusquement, il devient, non pas égrillard, mais truculent, disons. Surtout quand il s'en prend à ses ennemis ou dans certaines parties du dialogue. Alors, pour montrer un petit peu le ton, c'est parti, je lis par exemple ce petit passage. Il y a un nommé Bourquio,
oui.
Qui lui est l'aristotélicien un petit peu bébête. Hein. Alors, c'est l'argument d'autorité, lui, justement, qu'il prend dit sans arrêt. Et il dit à ses amis, « Rendriez-vous dès lors vains tous les efforts, tous les travaux et toutes les études sur les cieux et les mondes, à partir desquels tant de grands commentateurs, paraphraseurs, glosateurs, compilateurs, épitomiseurs, scolastiques, traducteurs, interrogateurs et logiciens se sont creusés la tête, sur lesquels les doctes profonds, subtils, auréolés, exaltés, inexpugnables, irréfragables, angéliques, séraphiques, chérubiques et divins ont établi leurs fondements. » Alors voilà la réponse d'un ami de Bruno, c'est pas Bruno lui-même, un nommé Fracastorio, qui est un personnage réel d'ailleurs. Alors il dit, lui sur le ton de l'ironie, « Ajoutez-y les casseurs de pierres, les pourfendeurs de rochers et grands donneurs de coups de pied. Ajoutez-y aussi les profonds prophètes, cornés omniscients, olympiens, firmamenticiens, empyréens et altitonins. » etc. Et alors l'imbécile reprend, « Nous devrions, selon vous, les jeter tous à l'égout. Le monde serait en effet bien gouverné si les spéculations de si nombreux et si dignes philosophes devaient être écartées et méprisées. » Et la réponse de Bruno, « Il ne serait pas juste de priver ces ânes de fourrage et de souhaiter qu'ils adoptent notre façon de voir. L'esprit et l'intellect ne varient pas moins que le tempérament et l'estomac. » Il y en a comme ça, 3-4 pages. On a l'impression de Rabelais sur la Sorbonne, hein, à peu près.
Oui, c'est assez vrai. C'est d'une certaine manière la coïncidence des contraires appliquée à la stylistique, c'est-à-dire passer au niveau le plus abstrait. Et Dieu sait si le texte peut l'être à certains moments, puisque c'est un commentaire d'Aristote, comme vous le disiez tout à l'heure, avec tout l'appareil d'Aristote, donc assez lourd. Et à un moment, il y a des coups d'accélération et on passe dans l'univers, donc je pense, de la comédie, du style de scène à ce moment-là.
Il y aurait des questions à vous poser à l'un et à l'autre sur la traduction, parce que ça pose évidemment, je suppose, des problèmes très très complexes, puisque les mêmes mots au XVIe siècle ne voulaient sans doute pas dire la même chose qu'aujourd'hui. Mais comme il nous reste peu de temps, je préférerais vous poser une question plus générale. Il y a manifestement, depuis quelques années, et alors cette année particulièrement, puisque nous avons deux œuvres de Bruno, un intérêt nouveau pour la figure de Bruno. Iversan, vous avez, bon, pas une explication, mais enfin une hypothèse.
J'ai l'ombre, voilà un mot brunien justement, j'ai l'ombre d'une explication, elle vaut ce qu'elle vaut, je suis sensible à l'intérêt qui se manifeste en ce moment, à côté de du développement des études de philosophie de la science et d'histoire des sciences, du développement des études qu'on pourrait appeler de poétique de la science. C'est la position par exemple d'un auteur comme Fernand Alline, dont je viens d'apercevoir un livre, Les structures poétiques du monde, où il est fortement question de Bruno, au Seuil. Et autour de ces auteurs et de ces tendances se développe une interrogation sur la manière dont on écrit la science, sur les tactiques et les stratégies rhétoriques. Et de ce point de vue, Bruno est probablement une figure exemplaire.
Bertrand Levergeois.
Je ne conclurai pas, je ne fournirai pas d'autres hypothèses. Je dirais simplement que après avoir brûlé pendant des siècles, Bruno aujourd'hui mérite bien qu'on s'attarde un tout petit peu plus à ces textes tels qu'ils sont. Et je crois que c'est l'occasion, quelle que soit la conjoncture, avec ces traductions, de s'intéresser à Bruno et rien qu'à Bruno.
Je vous remercie l'un et l'autre. Je rappelle que nous avons parlé d'un livre de Giordano Bruno qui vient de paraître chez Berg International. Ce livre s'appelle « L'infini, l'univers et les mondes ». Il a été traduit, commenté, annoté, présenté par Bertrand Levergeois. Et nous avons parlé aussi d'un autre livre qui va paraître, toujours de Giordano Bruno, Le banquet des cendres, c'est aux éditions de L'Éclat. Il est traduit et présenté par Yves Hersant.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 16 novembre 1987. Vous pouvez la télécharger pendant un an ou la réécouter pendant 1000 jours sur le site des Nuits par franceculture.fr.